c'est l'heure pour vous de retrouver Benoît Bouscarel pour le journal. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. En Russie, une réélection dans un fauteuil pour Vladimir Poutine et des réactions fraîches pour l'instant à l'international. Elles disent beaucoup, sans doute, des relations à venir entre la Russie et le monde occidental à l'aube de ce quatrième mandat du maître du Kremlin. Pour l'instant, seule la Chine a officiellement félicité, comme il est pourtant d'usage, le président réélu. Les autorités européennes se contentant de prendre acte de cette réélection. Les Britanniques, de leur côté, se montrent toujours intransigeants dans l'affaire Skripal, que cette réélection de Poutine ne leur fera pas oublier. Analyse de Nadine Epstein dans un instant, après un passage par Moscou où nous attend notre correspondant permanent Claude Brouillot. Dans ce journal également, la situation en Syrie et notamment à Afrin où les Kurdes dénoncent des exactions commises par les nouveaux maîtres de la ville, récit d'Éric Biegala. Au Proche-Orient, cette affaire très délicate pour la diplomatie française, un agent consulaire en poste au consulat général de Jérusalem pourrait bien être inculpé dans l'après-midi pour trafic d'armes. Nous verrons cela avec Étienne Monin. Nous parlerons de l'actualité en France. Nous reviendrons sur la situation à Mayotte, toujours extrêmement tendue au lendemain du premier tour de la législative partielle à Mamoudzou. Invité de la partie invitée de ce journal, Mohamed Maoulida, porte-parole du collectif contre la violence à Mayotte. Nous irons également à Nantes, où se prépare une réunion en préfecture sur l'avenir de la ZAD, 2 mois après l'abandon du projet d'aéroport par le gouvernement. Et puis nous évoquerons le rapport remis aujourd'hui par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes à Marlène Schiappa pour lutter contre le harcèlement et les violences sexiste. Un projet de loi étant en préparation, il sera présenté mercredi en Conseil des ministres. L'invité de la deuxième partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Il n'existe pas qu'une voie pour lui, il faut rouvrir le débat économique. On en parle avec notre invité, l'économiste Thomas Pourchet, qui signe chez Fayard, traité d'économie hérétique. En finir avec le discours dominant, il sera avec nous dans la deuxième et dernière partie de la Grande Table.
Avant de développer les titres de ce journal, des nouvelles, des négociations sur le Brexit et sur les suites du Brexit, on l'apprend à l'instant. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont finalement réussi à conclure un accord sur la transition post-Brexit. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis Bruxelles. Il y a un accord pour les droits des ressortissants et sur le volet financier également. Pour l'instant, rien sur le point épineux de la frontière irlandaise.
Oui, effectivement, les négociateurs européens et britanniques ont négocié tout le week-end parce que on sentait depuis la semaine dernière qu'il y avait des avancées, des possibilités d'ouverture, même si Theresa May critiquait plusieurs des dernières propositions de la Commission européenne. Il faut arriver à un accord cette semaine puisque il y a un sommet européen jeudi et vendredi pour traiter de ces questions. On parle bien de la transition, c'est-à-dire de la période qui se déroulera après le 29 mars 2019 et avant le 31 décembre 2020, donc cette période pendant laquelle les Britanniques devront, et les Européens aussi, devront s'adapter aux futures conditions de la période post-Brexit. Tout ce qui est négocié actuellement doit être remis sur la table et finalisé d'ici vendredi, de manière à avoir une vision claire. Cet accord porte effectivement sur le volet financier, on n'a pas encore le chiffre, on attend d'une minute à l'autre Michel Barnier et David Davis, les négociateurs en chef des deux blocs, qui doivent faire une conférence de presse d'ici une quinzaine de minutes pour donner le résultat des dernières avancées, un accord sur les droits des ressortissants européens au Royaume-Uni et britanniques en Europe, et puis effectivement cette question de la frontière irlandaise qui continue à poser problème parce que là, les propositions des Européens visant à maintenir un espace ouvert sont très critiquées par le Royaume-Uni, mais c'est le Royaume-Uni qui doit proposer une solution et pour l'instant, il n'y a pas d'idée alternative qui soit mise sur la table.
Merci Pierre Benazé en direct du bureau de Radio France à Bruxelles. En Russie, Vladimir Poutine a donc bien été réélu, comme prévu. Victoire au premier tour avec 76,7% des voix, d'après des décomptes quasi définitifs désormais. Le maître du Kremlin entame son quatrième mandat à la tête de la Fédération de Russie dans le silence prudent des capitales occidentales. Pour l'instant, seule la Chine a officiellement félicité, comme il est pourtant d'usage, le président réélu, les autorités européennes se contentant de prendre acte de cette réélection. La Russie de Poutine va rester un partenaire difficile, explique notamment Berlin, par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Berlin qui appelle toutefois à la poursuite du dialogue. Angela Merkel indique qu'elle va bien féliciter dans la journée Vladimir Poutine. Londres, de son côté, nous y reviendrons, continue son bras de fer sur l'affaire Skripal. Et silence radio total pour l'instant, côté français. Claude Brouillot, vous êtes le correspondant permanent de France Culture à Moscou. Le dénouement de la soirée d'hier était tellement prévisible que même à Moscou, finalement, la fête à la gloire de Vladimir Poutine a été sobre.
Oui, 3 minutes 30, chrono en main. Vladimir Poutine a fait un passage vraiment éclair sur la place Rouge hier soir, où l'attendaient pourtant depuis des heures des milliers de sympathisants. Il n'y a pas eu de discours proprement dit, simplement des remerciements et la promesse que le travail ne manquerait pas dans les prochains mois. Un aspect à retenir toutefois de l'intervention du triomphateur, Vladimir Poutine a insisté sur le fait que les succès récents, sans que l'on sache précisément lesquels, avaient tous été obtenus face à l'adversité, référence sans doute aux sanctions occidentales. Pendant ce temps, eh bien, les milieux d'opposition, eux, révélaient un chapelet de fraudes constatées par leurs observateurs. En tout le pays, 33 000 perdus rien que pour le mouvement d'Alexei Navalny, qui assure avoir vu ici des électeurs voter plusieurs fois, là des chiffres de participation qui passent du simple au double entre un constat d'observateur et le chiffre officiel, ou encore des autocars d'entreprise qui déversent leurs salariés carrément devant les bureaux de vote, autant de violations des règles qui ne seront pas arrivées jusqu'aux oreilles de Vladimir Poutine, occupé à expliquer à son QG, aux journalistes présents, pourquoi et comment la Russie n'a rien à voir dans l'empoisonnement mondial sur le mode « faites-moi confiance, je connais ce domaine d'activité ». Si cela avait été un poison militaire, même dit Vladimir Poutine, les personnes concernées n'auraient pas survécu. Propos tout simplement surréalistes le soir d'une victoire électorale.
Alors ce nouveau mandat, Claude, le quatrième, et théoriquement, d'après les termes de la Constitution russe, le dernier, ne sera, quoi qu'il arrive, pas comme les précédents, et Vladimir Poutine va devoir bien le négocier.
Oui, ce sera forcément particulier. Alors l'impression générale qu'on a tout de même ici, c'est que la montée en puissance d'un successeur n'est pas pour demain. Vladimir Poutine aime à jouer avec son avenir, comme hier soir d'ailleurs, en précisant avec une pointe d'humour particulier qu'il n'irait pas jusqu'à 100 ans. Dmitri Medvedev, l'actuel Premier ministre, a déjà occupé ce rôle de faire-valoir, qui n'est pas sans intérêt d'ailleurs, le jour lointain où Vladimir Poutine décidera de se retirer et de profiter de sa bonne fortune tranquillement. Mais on peut imaginer qu'après 18 ans au pouvoir, il saura choisir l'homme et le moment.
Merci Claude Brouillot, en direct pour France Culture depuis Moscou. En guise de réaction officielle à cette réélection, pour l'instant, l'Union européenne se contente de déclarer qu'elle prend extrêmement au sérieux les accusations britanniques contre la Russie. Et on le disait, pour ce qui est des suites de l'affaire Skripal, du nom de cet ex-agent double empoisonné avec sa fille, Londres ne désarme pas. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Malgré les dénégations de Vladimir Poutine, Claude Brouillot en parlait à l'instant, Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, a estimé ce matin de plus en plus absurde l'attitude russe.
Et juste avant de rencontrer ses homologues européens, le chef de la diplomatie britannique a ironisé sur les démentis de la Russie. Un jour, ils soutiennent qu'ils n'ont jamais produit de Novichok, un autre jour, ils affirment qu'ils l'ont produit, mais soutiennent que tous les stocks ont été détruits. Puis ils annoncent que certains stocks se sont mystérieusement échappés en Suède ou en Slovaquie ou en République tchèque ou aux États-Unis ou même au Royaume-Uni. Et Boris Johnson de conclure: ce que les gens peuvent voir, c'est qu'il s'agit d'une stratégie classique de la Russie qui consiste à essayer de cacher l'aiguille de la vérité dans une mode de foin de mensonge, fermer les guillemets. Boris Johnson et tous les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne préparent aujourd'hui le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra jeudi et vendredi à Bruxelles. Ils mettent au point une réaction commune à cette affaire Skripal. La plupart des capitales européennes se rangent aux côtés de la Grande-Bretagne, mais pour l'instant, l'UE a tant que les experts internationaux arrivés aujourd'hui au Royaume-Uni pour vérifier la nature du produit employé rendent leurs conclusions. Elles serviront de base à leur déclaration pour rejeter clairement l'utilisation d'armes chimiques et pointer les responsables. Bien que la question de sanctions soit sur la table, elle divise les États membres. Certains ne sont pas favorables à un durcissement des sanctions économiques imposées à la Russie pour la punir de l'annexion de la Crimée.
Merci Nadine Epstein. En Chine, l'homme fort s'appelle Xi Jinping est tout juste réélu. Lui aussi, il constitue ses équipes, place ses hommes. C'est ainsi que Liu He vient d'être nommé vice-premier ministre par un vote du Parlement. Ce très proche de Xi Jinping sera chargé de piloter la politique économique chinoise. Il est diplômé d'Harvard et il est censé pouvoir rassurer à l'international sur la politique économique de Pékin. Rien ne dit toutefois que cette nomination de Liu He annonce un tournant libéral. Dans la périphérie de Damas, en Syrie, la parade de Bachar el-Assad hier sur la ligne de front de la Rota orientale, le président syrien est venu souligner l'avancée de ses troupes dans l'enclave rebelle pendant que des discussions auraient lieu en ce moment même entre rebelles et loyalistes. Des discussions pour négocier une possible évacuation des combattants encore présents sur le terrain. Sur l'autre front syrien, plus au nord, la situation est tout autre. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Benoît.
Du service diplomatique de la rédaction de France Culture, la ville d'Afrin est tombée hier aux mains de l'armée turque qui en a chassé les combattants kurdes. Alors Recep Tayyip Erdogan, lui aussi, plastronne le président turc et il présente cette prise comme une victoire extrêmement importante. Mais Éric, les Kurdes qui dénoncent des exactions et des pillages à Afrin promettent de leur côté de se venger.
Oui, stricto sensu, Benoît, la bataille d'Afrin, la bataille de la ville d'Afrin n'a pas eu lieu. Les YPG, la milice kurde qui tenait la localité, a tout simplement décroché durant le week-end, s'éparpillant dans les zones rurales ou vers le sud, les zones tenues par le régime, et l'est, là où elle contrôle encore un peu de terrain. Les forces syriennes pro-turques et des éléments de l'armée d'Ankara ont donc fait leur entrée dans la ville d'Afrin dimanche matin, sans combat. Les YPG ont annoncé vouloir poursuivre la bataille à Afrin, mais en employant des tactiques de guérilla plutôt que le combat frontal contre une armée lourdement équipée disposant d'artillerie et d'une aviation et contre laquelle la milice kurde savait ne pas pouvoir faire le poids à terme. Une bonne partie de la population d'Afrin a également évacué la ville. Plus de 100 000 réfugiés supplémentaires, selon les agences de l'ONU présentes en Syrie, se dirigeant vers le sud, vers les zones tenues par le régime syrien. Toute la question est maintenant de savoir ce qu'Ankara va pouvoir faire de cette victoire. L'objectif affiché par les leaders turcs, et notamment son président Recep Tayyip Erdogan, repousser les Kurdes hors du canton d'Afrin et le repeupler avec certains des quelques 3 millions de réfugiés syriens présents en Turquie, risque de se révéler difficile. Dans la région frontalière située un peu plus à l'est, là où elle avait repris du terrain à l'État islamique l'an passé, la Turquie a effectivement réussi à polisser la zone et à y renvoyer quelques 100 000 des réfugiés syriens qui se trouvaient sur son sol. Mais il s'agit là de régions syriennes de peuplement arabe et où l'adversaire antérieur, l'État islamique, n'est plus présent, même de manière résiduelle. À Afrin, en revanche, la population est ou était très majoritairement kurde et Ankara risque de mettre beaucoup plus de temps à y installer une administration arabe syrienne qui lui serait inféodée, surtout si les miliciens des YPG poursuivent attaques et coups de main dans le canton, comme ils l'ont promis.
Merci Éric Biegala. Au Proche-Orient, une affaire très délicate pour la diplomatie française. Un agent en poste au consulat général de France à Jérusalem pourrait bien être inculpé lors d'une audience qui doit se tenir dans quelques minutes pour trafic d'armes. L'homme arrêté il y a un mois aurait profité de ses fonctions diplomatiques et des privilèges qui y sont associés pour faire passer des pistolets et des fusils automatiques de la bande de Gaza vers la Cisjordanie en traversant l'État hébreu. Ses motivations seraient purement vénales. Étienne Monin est le correspondant permanent de France Culture à Jérusalem.
Et cette affaire fait la une ce matin de la presse israélienne. Le consulat général de Jérusalem a déjà été éclaboussé par des affaires ces dernières années, mais celle-ci a les allures d'un cauchemar. D'après les éléments communiqués par les services de renseignement israéliens, l'agent consulaire a reconnu le trafic d'armes. Il a fait passer 70 armes de poing et 2 fusils d'assaut depuis Gaza jusqu'en Cisjordanie. Ses motifs, vous le disiez, sont d'ordre financier. Toujours selon ces éléments, il a utilisé le véhicule de service du consulat général. Son contact à Gaza serait un employé du centre culturel français. Il y a eu au moins 5 voyages pendant plusieurs mois. 6 personnes sont poursuivies aujourd'hui dans cette affaire. Le ministère israélien des Affaires étrangères a joué l'apaisement. Dans un communiqué, il a fait savoir que les relations avec la France sont excellentes et que cette affaire ne change rien. Le ton est plus cassant du côté de l'armée. Le responsable de l'administration militaire qui gère la Cisjordanie demande aux structures internationales de faire le ménage chez elles pour s'assurer que c'est bien de l'aide humanitaire qu'elles apportent et non pas du soutien aux groupes terroristes.
Merci Étienne Monin depuis Jérusalem. L'actualité en France à 12h45, elle est politique. Après-demain sera présenté un projet de loi en Conseil des ministres pour lutter contre le sexisme, le harcèlement et les violences faites aux femmes. Bonjour Eva Jednak.
Bonjour.
Le texte en préparation prévoit notamment de verbaliser le harcèlement dans l'espace public, le harcèlement de rue. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes a remis des recommandations à la secrétaire d'État, Marlène Schiappa. Des recommandations qui contiennent des mesures bien plus sévères que celles déjà proposées dans un précédent rapport, Eva.
Alors que les parlementaires évoquaient une contravention de 4e classe à hauteur de 90 euros, le Haut Conseil à l'égalité lui préconise de monter d'un cran et de verbaliser les actes sexistes d'une amende de 5e classe jusqu'à 1500 euros. Pour justifier ce montant, il avance plus de cohérence avec l'échelle des peines existantes. En effet, les contraventions de 4e classe ne regroupent que les actes qui ne portent pas atteinte à l'intégrité d'autrui, comme le refus de priorité ou le passage au feu rouge. Or, rappelle-t-il en introduction, le harcèlement sexiste constitue une violation des droits humains, en l'occurrence ici de la liberté de circuler et du droit à la sécurité. Ensuite, le Haut Conseil à l'égalité s'intéresse à la qualification de l'infraction dans la loi. Le gouvernement a déjà annoncé vouloir en créer une nouvelle, celle d'outrage sexiste, mais pour plus de lisibilité, lui recommande de s'appuyer sur celle d'agissement sexiste déjà existante dans le Code du travail. Cela permettrait de réunir tous les comportements agressifs envers les femmes sous une seule et même appellation. Enfin, il préconise la mise en place d'une vraie politique de prévention, de sensibilisation du grand public et de formation des professionnels. Il est nécessaire, selon lui, d'effectuer un travail à long terme parce que la verbalisation ne promet aucune garantie d'efficacité. En Belgique, par exemple, le harcèlement de rue est sanctionné depuis 2012 avec peu de résultats. Seulement 4 ou 5 verbalisations en 7 ans, toutes classées sans suite.
Merci Eva Jednak. À Notre-Dame-des-Landes, quel avenir pour les terres définitivement libérées par l'abandon du projet d'aéroport nantais? Cela fait 2 mois maintenant que cet abandon est officiel et aujourd'hui, une réunion se tient pour décider de l'avenir de la ZAD. Rendez-vous pris à 14h30 à la préfecture de Loire-Atlantique. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de Nantes. Il y aura à cette réunion à la préfecture les associations, les syndicats agricoles, les élus locaux, des représentants de la Chambre d'agriculture. En réalité, presque toutes les parties concernées par le dossier.
Alors presque, car il manque du monde à l'appel. C'est du côté des opposants à Notre-Dame-des-Landes, du mouvement d'opposition et de ses nombreuses composantes que ce comité de pilotage n'est pas abordé de façon unanime. Il y aura bien une dizaine de personnes, 9, issues de ce mouvement d'opposition, prêtes à discuter de l'avenir agricole de la ZAD, mais certains ont décidé de boycotter. Justement parce que ce comité de pilotage se donne uniquement une vocation agricole, quand les opposants souhaiteraient parler avenir d'un territoire, dans sa globalité, aux activités bien plus vaste, parce qu'ils estiment aussi qu'on ne peut pas envisager de discussion sereine avec l'État, qu'en pèse dès la fin du mois de mars des menaces d'expulsion. Alors les opposants historiques, élus ou paysans, boycotteront aussi pour certains cette première réunion pour ne pas envenimer les choses, alimenter aussi des tensions bien réelles en ce moment au sein du mouvement d'opposition. Ils ne participeront pas pour autant à une manifestation, elle doit démarrer vers 13h devant la préfecture, une pression inutile selon eux sur la préfète de la région, Nicole Klein, plutôt ouverte au dialogue et qui déclare vouloir agir avec discernement. Alors les discussions s'annoncent en tout cas difficiles et longues, ça c'est sûr, entre d'un côté aussi le président du Conseil Général, pro-aéroport. Il demande lui la rétrocession des terres au département de Loire-Atlantique, 895 hectares, dont Philippe Grosvalet, donc le président du département, souhaite voir confier la gestion à la Chambre d'agriculture et uniquement. Et de l'autre, les anti-aéroports qui estiment être les plus légitimes pour prendre en charge l'avenir de la ZAD. La préfète Nicole Klein espère un premier comité de pilotage cet après-midi placé sous le signe de l'apaisement. C'est pas sûr, on verra en fin d'après-midi. La représentante de l'État, en tout cas, qui ne manquera pas de regretter l'interruption la semaine dernière de la remise en état de la route des chicanes, cette fameuse route qui traverse la ZAD à cause de dégradations sur le chantier.
Merci Véronique Roberotte en duplex des studios de France Bleu, Loire-Océan à Nantes. Il y avait des législatives partielles hier dans 3 circonscriptions françaises. Dans la 8e de Haute-Garonne, le candidat socialiste Joël Aviragnet a recueilli plus de 70% des voix hier. C'était au deuxième tour face à son adversaire d'En Marche, Michel Monsara. Dans le Loiret, 4e circonscription, là c'était un premier tour. Le député sortant, Les Républicains, Jean-Pierre Door est arrivé en tête. 38,2% des voix devant Mélusine Arlet pour La République En Marche. Et puis à Mayotte, on va s'y arrêter. À Mayotte, avantage à la députée sortante Ramlati Ali, sans étiquette, arrivée en tête du premier tour avec 36,15% des voix, 4 points devant le candidat Les Républicains, Elad Chakrina, qui avait reçu le soutien du Front National. À Mayotte, donc, où la tension ne retombe pas, la tension sociale, elle ne retombe pas, et bien au contraire, au lendemain de ce vote. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
L'élection a confirmé donc les 2 finalistes du printemps dernier. Et la journée d'hier a confirmé ce climat social oui. Très lourd.
Oui, il y a des risques d'affrontement, nous dit-on sur place. Hein, on me le confirme il y a quelques minutes. C'est des risques d'affrontement intercommunautaire entre la population mahoraise et la population comorienne. On sait qu'il y a une forte immigration venue des Comores. Dans certains quartiers, il y a des sortes de milices qui se constituent pour assurer la sécurité, pour interpeller ceux qu'on soupçonne être des immigrés clandestins. Dans certains endroits également, il y a des couvre-feux qui s'instaurent. De nouveaux barrages se sont constitués également, en plus de ceux qui étaient installés depuis plusieurs semaines. Et sur ces barrages, on me dit que ça se radicalise. Les leaders du mouvement de contestation ont apparemment de moins en moins prise sur la population. C'est ce qu'on nous rapporte. Par ailleurs, la population a du mal à se ravitailler. Dans de nombreux magasins, les rayons sont vides. Ça se durcit et ça se complique. Une partie de la population a le sentiment que le gouvernement joue le pourrissement de la situation. On a vu à l'occasion du scrutin partiel ce week-end du premier tour, on a vu dans les urnes des bulletins où il était marqué plus de sécurité, c'était pas des bulletins de vote, des bulletins où on avait inscrit cette formule-là, plus de sécurité. Il y a une mission de haut niveau qui est restée sur place après la visite de la ministre de l'Outre-mer et qui est composée des représentants de l'État, mais elle attend toujours sa lettre de mission. Et pendant ce temps-là, la tension grimpe et il y a, on vous le disait, des risques d'affrontement.
Merci Stéphane Robert. Alors vous allez rester avec nous dans ce studio pour poser quelques questions à notre invité. Bonjour Mohamed Maoulida.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes membre du bureau fédéral de la Fédération Autonome de l'Éducation Nationale et vous êtes porte-parole du collectif contre la violence à Mayotte. Alors on l'a entendu, la violence monte, la contestation aussi. On avait peu d'espoir, mais l'expression démocratique hier n'a pas suffi à apaiser les colères.
Oui, en effet, les colères ne se sont pas apaisées parce que on attend toujours de la part du gouvernement les émissaires qui seront mandatés pour engager le gouvernement dans des négociations.
Ils sont sur place, les représentants de l'État.
Oui, ils sont sur place, mais ils n'ont pas mandat pour négocier, ils n'ont pas mandat pour engager l'État. Ils sont là pour consulter, alors qu'il y a eu beaucoup plus de consultations sur la sécurité à Mayotte. Donc maintenant, nous dire qu'on nous consulte encore, on va nous consulter jusqu'à quand?
C'est-à-dire qu'on ne vous prend pas au sérieux, d'après vous, après toutes ces semaines de contestation, ça continue, il y a un déni de la situation?
On ne nous prend pas au sérieux. En fait, le gouvernement nous joue, comme vous l'avez dit, joue au pourrissement du mouvement, ne tient pas compte de la situation de Mayotte aujourd'hui. Aujourd'hui, Mayotte, au niveau de la superficie, en fait, au niveau de la population, nous sommes à 2 habitants au mètre carré. Je ne pense pas que c'est dans un territoire quelconque on peut avoir ça. Ça montre l'insécurité. Donc, nous demandons plus de sécurité, plus de mesures pour ramener la sécurité. Et on est prêt à négocier avec des émissaires qui seront mandatés.
Il y a eu des renforts qui sont venus, qui sont arrivés là depuis quelques semaines pour assurer la sécurité. Ça suffit pas?
Loin de suffire parce que les frontières ne sont pas suffisamment gardées, mais de deux, ces renforts qui sont venus sont des renforts de passage. On a vu les syndicats de police qui ont monté au créneau maintenant, qui ont dit que non. Pas des renforts de 10 jours ou bien de 15 jours, mais ils ont besoin des renforts dans le temps, des renforts qui vont rester. On a vu aussi récemment les syndicats des magistratures qui sont sortis de leur silence en criant haut et fort qu'ils n'ont pas assez de moyens pour répondre, pour faire une bonne justice à Mayotte. Donc tout ce panel fait que l'État aujourd'hui ne veut pas répondre à la situation d'urgence à Mayotte.
Mayotte, c'est une île où le niveau de vie est moins élevé qu'en métropole, mais est beaucoup plus élevé que dans les Comores, qui sont à quelques dizaines de kilomètres de Mayotte. Est-ce que c'est pas insoluble, ça? Est-ce que vous n'êtes pas finalement à Mayotte condamné à être un pôle d'attraction pour les Comores à côté qui sont beaucoup plus pauvres?
C'est chose possible, mais l'État français doit assurer la sécurité des biens et des personnes, la libre circulation. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit enlever les barrages parce que les barrages empêchent la circulation. Mais comment est-ce qu'on peut circuler dans un pays où on n'est pas tranquille de circuler? On n'est pas tranquille chez soi, on ne peut pas circuler le soir, on ne peut pas aller au travail. On circule avec la peur au ventre. Et c'est ça, c'est ce sentiment qu'on on veut retrouver la sécurité et circuler comme étant libre.
Ce sont, nous dit-on, beaucoup de femmes qui tiennent les barrages aujourd'hui. Ça rappelle un petit peu le mouvement des chatouilleuses dans les années 60. Vous confirmez, il y a un lien?
Oui, je le confirme parce qu'en fait, comme Mayotte s'est toujours battue sans violence, ce sont les femmes qui sont devant. Ce sont les femmes qui sont devant. On l'a démontré depuis qu'on a commencé ce mouvement de contestation. Il n'y a pas eu d'affrontement. On a fait descendre dans la rue plus de 20 000 personnes, mais aucun blessé, il n'y a eu aucun dégât. On a démontré qu'on est là pour demander la sécurité. Donc on n'a pas instauré l'insécurité là où on demande la sécurité.
Mohamed Maoulida, une dernière question. Comment vous réagissez quand on entend ces témoignages sur des groupes de citoyens qui vont faire la chasse aux clandestins pour les livrer à la gendarmerie? Ça s'est passé notamment dans le nord de Mayotte. On a des témoignages ce week-end. Ça, c'est ce qui devait arriver?
Oui, c'est l'exaspération, parce que même si on ne le dit pas à haute et intelligible voix, mais on est en plein guerre civile aujourd'hui à Mayotte, parce qu'on ne peut pas circuler. Donc, pour notre sécurité, on est prêt à livrer les clandestins, parce qu'ils sont les premiers, au premier plan, c'est eux qui instaurent la violence.
Et donc, c'est normal?
C'est l'État qui devait le faire. Maintenant, l'État ne le fait pas. On est à bout, on le fait. Malgré que c'est une mission régalienne de l'État.
Merci Mohamed Maoulida d'avoir accepté notre invitation dans le journal de Midi 30 de France Culture, porte-parole du collectif contre la violence à Mayotte. Cette dernière information, avant de refermer ce journal, le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie se déroulera le 4 novembre de cette année 2018. Ainsi en ont décidé ce matin les élus du Congrès calédonien lors d'une séance publique à Nouméa. Deux mots de météo, quatre départements du sud de la France métropolitaine sont placés en alerte orange aujourd'hui à la neige et au verglas. C'est la suite de cette vague de froid qui recouvre la France depuis ce week-end. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard. Le prochain sera présenté par Aurélie Kiefer. Ce sera à 18h.